Radio de la Paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Radio de la Paix. À la une de ce 18h, les relations ivoiro-japonaises s'intensifient. La ministre japonaise des Affaires étrangères, reçue ce lundi par le président Alassane Ouattara, s'est engagée au nom de son pays à contribuer à la paix et soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire en matière sécuritaire, d'infrastructure et économique. La deuxième édition du Salon Pro-Écolo de la Salubrité s'est tenue récemment à Abidjan autour du thème « Déchets, dégradation des terres et désertification, agir pour une Afrique durable ». On en parle au cours de cette édition avec notre reporter Jean-Claude Mabéa. Et puis dans l'actualité internationale, au Kenya, au moins 50 personnes ont été tuées dans la rupture d'un barrage au nord-ouest de Nairobi, selon les autorités locales. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon est au beau fixe et va s'accentuer dans plusieurs domaines, surtout économiques et sécuritaires. C'est la trame des échanges qu'il y a eu entre le président de la République Alassane Ouattara et la ministre des Affaires étrangères du Japon ce lundi à Abidjan. Le compte-rendu est signé Junior Cardin.
Les projets déjà réalisés, de même que ceux en cours et à venir, dans le cadre de la coopération bilatérale, ont été évoqués par le président Alassane Ouattara.
La Côte d'Ivoire a reçu de nombreux investissements du gouvernement japonais dans tous les secteurs, le secteur des infrastructures, de l'énergie, et de l'agriculture, du social. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est à 70% terminé et l'inauguration pourra se faire dès l'année prochaine. Et nous pensons qu'il y aura une accélération de la mise en œuvre du montage des véhicules Toyota dans les meilleurs délais.
L'importance des investissements du Japon en Côte d'Ivoire répond à certaines réalités, au dire de Kamikawa Yoko, ministre des Affaires étrangères du Japon.
Le Japon considère votre pays qui maintient chaque année un taux de croissance économique élevé et bénéficie d'un environnement des affaires stable et favorable comme une porte d'entrée pour rayonner vers la région francophone de l'Afrique de l'Ouest et continuera à renforcer les relations économique entre nos deux pays.
D'où cet engagement pour un appui sécuritaire et humanitaire du pays du soleil levant à la Côte d'Ivoire.
Pour cette raison, le Japon contribuera à la paix et à la stabilité dans la région en renforçant les capacités de contrôle des frontières, en améliorant les services publics et en soutenant les réfugiés, les familles accueillies dans la perspective de femmes, paix, sécurité. Le Japon continue à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire.
Au dire des deux autorités, la Côte d'Ivoire pourrait abriter un forum économique Afrique-Japon du secteur privé en décembre prochain.
Merci à vous, Junior Cardin, pour ce compte-rendu. Mais avant la rencontre avec la ministre des Affaires étrangères du Japon, Kamikawa Yoko, eh bien, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a échangé ce matin à sa résidence avec Michael Langley, le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Ici encore, les questions sécuritaires étaient au centre de la rencontre, de même que le retrait des militaires américains du Niger, tel que demandé par les autorités de ce pays. Écoutons le général Michael Langley face à la presse à sa sortie d'audience.
Alors, il faut dire qu'il y a de cela 9 mois, j'étais ici et nous avons eu à parler des questions sécuritaires avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si je suis encore revenu, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Et l'une des raisons pour lesquelles encore je suis là, c'est aussi pour féliciter la Côte d'Ivoire pour cette organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations et pas seulement une belle organisation parce qu'il faut dire qu'il y a eu plus de 2 milliards de téléspectateurs de par le monde entier. Mais encore, ce qui nous réjouit, c'est le fait que la Côte d'Ivoire ait remporté cette Coupe. Mais il faut dire que concernant le retrait de nos troupes, nous avons énormément échangé avec les autorités de ce pays et le verdict sera rendu public dans quelques semaines. Donc, soyez un peu patients. Il faut dire que nous sommes conscients du fait que la menace existe, la menace est bien réelle, et nous sommes, on va dire, là pour renforcer nos différents partenariats avec la Côte d'Ivoire en matière de sécurité, de sorte à pouvoir mener à mieux cette mission de pouvoir, on va dire, aider à éliminer tout ce qui est violence extrémiste au niveau de la sous-région.
À l'instant, Michael Longley, le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Et puis le Premier ministre ivoirien représente du 28 au 30 avril à Nairobi, au Kenya, le président Alassane Ouattara, au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour la reconstitution de l'Association pour le développement international, IDA 21, une institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Et lors d'une prise de parole, le chef du gouvernement ivoirien a sollicité pour la Côte d'Ivoire, face à ces défis, un renforcement du soutien de la Banque mondiale à travers cette plateforme. Robert Begré-Mambé.
Je voudrais me réjouir d'avoir eu ce grand honneur de représenter le chef de l'État à cette rencontre de Nairobi qui va consister à redimensionner le volume de l'intervention de l'IDA. Et nous venons de rencontrer le vice-président en charge de l'Afrique, de la Banque, qui a donné l'occasion d'articuler nos discussions sur plusieurs points qui sont très importants pour la Côte d'Ivoire. L'eau, l'électricité, l'agriculture, la santé, l'éducation et tous les mécanismes par lesquels nous allons consolider les acquis de la Côte d'Ivoire pour que ce pays soit très fort au plan économique et social. Voici un peu l'objet de notre présence à Nairobi.
Présent également à ce sommet de Kenya, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a pour sa part salué le leadership de la Côte d'Ivoire pour le développement en Afrique. Écoutons Ousmane Diagana.
J'ai rappelé également que l'idée d'une réunion de ce niveau, en fait, vient de Son Excellence Monsieur le Président Ouattara. Au sortir de la pandémie de la COVID-19, il avait convié ses pairs africains et la Banque mondiale à Abidjan pour discuter de la nécessité de tous les partenaires d'accompagner le développement de l'Afrique à travers une mobilisation conséquente de ressources. Ça a été un succès extraordinaire. Donc nous reproduisons la même démarche. Donc la présence de la Côte d'Ivoire à cette rencontre, ça va donner beaucoup de force à la fois à nos efforts, mais également beaucoup de crédibilité à cette démarche.
Vous venez d'écouter le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, et juste avant lui, le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé. Promotion des emplois verts après la première édition au Cameroun l'année dernière. Le Centre national floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a abrité du 25 au 27 avril dernier la deuxième édition du Salon Pro-Écolo de la salubrité et des solutions écologiques en Afrique. Cet événement organisé par Valoris Eco-Solutions se tenait autour du thème déchets, dégradation des terres et désertification, agir pour une Afrique durable. Des panels et des expositions ont meublé ces trois jours, selon Jean-Claude Mabéa, qui a assisté jeudi dernier à la cérémonie d'ouverture.
Le commissaire général de cette seconde édition du Salon Pro Écolo de la salubrité et des solutions écologiques en Afrique a expliqué les objectifs et les enjeux de cet événement. Moussa Traoré dit MT.
Notre écosystème est menacé par les ordures et le nombre de bouteilles plastiques dans la lagune. Au sorti de ces trois jours de réflexion, je suis convaincu que des pistes de solutions seront élaborées.
Venu de Yaoundé, le porte-parole d'une délégation d'experts en environnement a donné les raisons de leur présence à ce salon.
Nola Bina Martin, je suis ingénieur des eaux et forêts. Je représente Pro Écolo Cameroun et nous venons ici proposer des solutions, certaines approches, comment réutiliser des grandes quantités de bouteilles plastiques qui polluent énormément notre environnement pour faire des meubles, des constructions de maisons pour essayer de lutter contre la dégradation des terres.
Les questions environnementales étant au cœur des actions du CESEC, la représentante du président de l'institution, Dr Eba Bomo Catherine, a salué l'initiative, non sans exprimer les attentes de son mandant.
Le message adressé par le président, c'est la prise en compte de tout ce qui concerne les éléments qui contribuent à la préservation de l'environnement, à la lutte contre tout ce qui est changement climatique. Nous attendons des réponses efficaces parce que ce sont des thématiques qui ne sont pas pas prise en compte par les populations.
Une marche verte est donc prévue pour marquer la fin de ce salon à l'université Félix-Faure-Boigny de Cocody.
Et parlons de l'opération de déguerpissement dans le district autonome d'Abidjan, l'irrecevabilité des arguments et la non-implication des populations sont les constats clés de la conférence organisée par le Centre de recherche et d'action pour la paix, le CERAP, le 26 avril dernier. À ce propos, Dr Bogasako Gervais et l'architecte Jean-Marc Domelo ont exposé sur la question en présence du député Michel Gbagbo et du père Norbert-Éric Kabekan. Christelle Yesso y était, son compte-rendu.
Dr Bogasako a débuté en analysant les arguments de l'État pour expliquer les déguerpissements.
Le dernier argument est dit, c'est de préserver les infrastructures publiques en libérant les emprises du domaine public urbain. Ça veut dire quoi ? En Côte d'Ivoire, Abidjan se modernise en repoussant les ports vers la périphérie. Voici l'image qu'on a donnée de notre pays.
Pour lui, ces actes de déguerpissement sont une atteinte aux droits humains.
La Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 1er, très clair, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Que je sois pauvre, j'ai le droit aussi de vivre là où il est pauvre. Donc si tu veux que j'existe au moins, dans ce cas-là, il faut construire.
Quant au deuxième intervenant, l'architecte Jean-Marc Domelo, il a pointé la non-implication des populations par l'État dans la restructuration des villes.
Le problème des quartiers précaires est un problème qui date depuis plusieurs années. Il y a une cassure, il n'y a pas de lien réel entre la population et ses outils de l'État. On a vu par exemple qu'en 1997, le quartier Washington avait été complètement rasé, ils ont été relocalisés à Kiabou, mais on a observé que quelques années après, les gens de Kiabou sont revenus sur le site de Washington et ont mis en location les maisons qui leur avaient été données à Kiabou. Pourquoi ? Parce que les gens, les populations veulent être proches de leur lieu de travail et donc tous ces processus-là n'ont pas été pris en compte avant de les déguerpir.
La conférence s'est achevée par une invitation à l'État à faire preuve d'humanisme et à impliquer davantage les populations.
Merci à vous, Christelle Yesso. Comme vous le savez, chaque 1er mai, se célèbre partout dans le monde la fête du travail. Et d'ordinaire, c'est à cette occasion que les travailleurs, aussi bien ceux du public que du privé, posent leurs différentes préoccupations aux dirigeants de leur pays. En Côte d'Ivoire, c'est ce que la Confédération syndicale Plateforme nationale des travailleurs annonce vouloir faire en ce 1er mai 2024, surtout par rapport aux écoles privées, tout en dénonçant sa mise à l'écart de la cérémonie traditionnelle, la traditionnelle cérémonie officielle. Écoutons son président Théodore Zadignania.
Pour ce 1er mai 2024, la Confédération Plateforme Nationale attend, dans un premier temps concernant le secteur public, que les dispositions des accords soient respectées dans leur ensemble, notamment au niveau des discussions sectorielles, au niveau, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale. Pour le moment, on n'a pas encore enclenché véritablement les débats. Donc, il y a également des inquiétudes. Au niveau des revendications, les fonctionnaires demandent que les primes trimestrielles soit attribué à l'ensemble des fonctionnaires qui n'en bénéficient pas. Au niveau du secteur privé, nous souhaitons voir une plus grande implication de l'État au niveau de l'école privée, parce que à partir du mois de juin, les enseignants de ce secteur sont laissés pour compte et souffrent. Et souvent, cela dépeint négativement sur les résultats des examens, quand on sait que dans notre pays, plus de 60% du système éducatif est aux mains du secteur privé. Donc, il faut que l'État accompagne ce secteur plus vigoureusement, tant dans le recrutement des enseignants que dans leur rémunération. Enfin, la plateforme nationale, qui est une confédération syndicale, demande enfin qu'elle soit reconnue pleinement et entièrement sur la liste des 6 centrales syndicales reconnues en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, elle n'est pas invitée officiellement aux activités du 1er mai. À la primature, c'est une grosse injustice quand on sait le rôle que nous jouons dans la préservation de la paix sociale. Voilà un peu nos préoccupations pour ce 1er mai.
À l'instant, le président de la Confédération syndicale Plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, Théodore Zadignania. Notons que la cérémonie officielle de la fête du 1er mai se tiendra au cabinet du Premier ministre à Abidjan Plateau. Dans l'actualité sur le continent, au moins 50 personnes sont mortes au Kenya après la rupture d'un barrage au nord de la capitale Nairobi, a indiqué à l'AFP, l'agence France Presse, le gouverneur local. Alors que le pays est balayé par des pluies diluviennes, le barrage a rompu près de la ville de Maimayu, dans la vallée du Rift, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Nairobi, emportant des maisons et submergeant les axes routiers. Parlons toujours de l'actualité internationale. La deuxième retraite du Conseil des sages de la CEDEAO sur le thème « Capitaliser les expériences et répondre aux défis actuels en matière de gouvernance, de paix et de sécurité dans la région de la CEDEAO » se tient à Abidjan du 29 au 30 avril. Au menu des échanges, les défis de la gouvernance et bien évidemment la paix et la sécurité dans la sous-région. Écoutons à ce propos Goodluck Ebele Jonathan, président du Conseil des sages de la CEDEAO et ancien président de la République fédérale du Nigeria, dans les propos recueillis et traduits par Mata Touré.
Avec les différents challenges que les gouvernements rencontrent à travers la région, en ce moment y compris le défi que pose la décision du Burkina Faso, du Mali ou encore du Niger de se retirer de la CEDEAO, on assiste à un véritable coup contre la démocratie. Quatre pays qui sont actuellement sous un régime militaire avec des conséquences qui incluent des violations des droits de l'homme. Et puis, surtout, on assiste à une tendance à l'autocratie. Cette retraite des sages de la CEDEAO, qui se tient pour échanger des idées et partager des expériences de ses membres, et surtout de proposer des solutions aux défis de paix et de sécurité que rencontre donc notre sous-région, c'est clairement une nécessité impérieuse au regard des impacts négatifs qui pourraient intervenir à travers très court terme. J'ai confiance en notre capacité de réponse pendant ces réflexions de deux jours pour faire des propositions concrètes et des démarches qui auront un impact sûr et rapide sur la paix et la stabilité dans notre région.
Vous écoutez le président du Conseil des sages de la CEDEAO et ancien président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Ebele Jonathan. Et c'est la fin de cette édition dont voici le rappel des titres. Les relations ivoiro-japonaises s'intensifient. La ministre japonaise des Affaires étrangères, reçue ce lundi par le président Alassane Ouattara, s'est engagée au nom de son pays à contribuer à la paix et soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire en matière sécuritaire, économique et infrastructure. La deuxième édition du Salon Pro-Écolo de la Salubrité s'est tenue récemment à Abidjan autour du thème « Déchets, dégradation des terres et désertification, agir pour une Afrique durable ». Et puis au Kenya, au moins 50 personnes ont été tuées dans la rupture d'un barrage au nord-ouest de Nairobi, selon les autorités locales. Tout de suite, votre magazine d'information économique dénommé Economia est présenté par Jean-Claude Comé. Excellente soirée à l'écoute de Radio de la Paix.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Merci de toujours suivre Economia pour mieux comprendre les sujets économiques. Economia nous conduit aujourd'hui en Belgique pour parler de la cinquième édition de la conférence mondiale sur le cacao qui s'est tenue à Bruxelles et où ont pris part les acteurs de la chaîne de valeur du cacao dans le monde. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux plus grands producteurs du cacao avec plus de 60% de l'offre mondiale y ont pris part. Et avec notre invité Ousmane Gbané, banquier d'affaires spécialiste en négoce, nous parlerons dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie des enjeux et retombées d'une telle rencontre mondiale pour ces deux pays. Mais avant, rappelons que vous aurez le lexique économique et vers la fin de l'émission, les tendances de la bourse. Bienvenue et merci de nous suivre.
Le lexique économique. Le lexique économique.
Le cacao durable.
Le cacao durable, c'est du cacao cultivé dans le respect de l'environnement et d'une façon qui contribue à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de leurs familles et qui permet d'abolir le travail des enfants et protéger l'environnement.
La loi sur la déforestation de l'Union européenne.
La loi sur la déforestation de l'Union européenne vise à interdire la mise sur le marché ou l'exportation depuis le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts. Le champ d'application du texte couvre donc ces produits que sont le café, le cacao, le caoutchouc, l'huile de palme, le soja, le bois, l'élevage de bœufs, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le charbon de bois, le papier imprimé.
La vente par anticipation.